y a des moments dans la vie où nous avons des choix importants à faire. Je profite de l'été pour relire la vie de Hudson Taylor. Peut-être certains d'entre vous ont lu ce livre. Hudson Taylor, qui a été appelé comme missionnaire en Chine vers 1850. Et à l'époque, c'est encore le cas en partie aujourd'hui, c'était un pays très fermé à l'évangile. Il n'y avait par exemple aucun missionnaire dans le centre de la Chine. Mais Hudson Taylor a obéi à l'appel du Seigneur, coûte que coûte. On pourrait citer d'autres exemples de choix importants dans la vie. Le mariage, par exemple. Choisir un conjoint pour toute la vie, c'est un choix important. Choisir un travail, quand on a le choix, c'est aussi un moment important, une étape importante. Élever des enfants, c'est aussi un choix et une responsabilité importante. Ceux qui ont eu des enfants, et ça va bientôt être de nouveau notre cas dans quelques jours, savent que c'est une livraison sans mode d'emploi. Et on fait ce qu'on peut. Et puis, il y a tous les choix de la vie quotidienne où Dieu nous appelle à vivre comme disciples du Christ. Et comme nous l'avons vu ce matin en lisant et discutant ensemble ce texte de Luc, chapitre 14, ce n'est pas juste des mots. Nous sommes, en tant que chrétiens, appelés à assumer l'appel que Dieu nous a lancé et qui nous dit « Suis-moi ». Je vous invite ce matin à reprendre la lecture du livre d'Esther, que nous avons commencé dimanche passé et qui nous sert de fil conducteur pour certaines prédications cet été. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche passé, je vous fais un rapide résumé de l'épisode 1. Nous avons vu qu'il y a une question centrale, en tout cas je vous propose de suivre cette question tout au long du livre d'Esther, c'est « Où est Dieu ? Que fait Dieu ?» dans une histoire et dans un livre où il n'est jamais mentionné. Il n'y a pas un verset dans le livre d'Esther qui nous parle de Dieu. Et pourtant, ce livre est dans la Bible. Où est Dieu? Que fait-il dans l'histoire d'Esther? Que fait-il dans l'histoire de l'humanité? Le chapitre 1 du livre d'Esther évoque la disgrâce de la reine Vashti, qui a refusé de se présenter devant le roi Assuérus. Peut-être dans la Bible que vous avez sous les yeux, c'est marqué Xerxès. Le roi Xerxès, roi de l'Empire perse qui domine le monde à l'époque. Vashti a refusé de se présenter devant le grand roi Assuérus et ses invités, un groupe d'ivrognes, pardon, de conseillers. Et cette femme, à cause d'un édit proclamé par le roi, est chassée de sa place d'impératrice. Et au chapitre 2, entrent en scène deux personnages clés dans le récit. Mardoché, qui est le tuteur, le protecteur de la jeune Esther, qui n'a plus ses parents. Et tous les deux sont d'origine juive. Et autant au chapitre 1, nous avons vu cette reine Vashti descendre les échelons de la hiérarchie sociale, autant nous voyons au chapitre 2 l'élévation de la jeune Esther au rang d'impératrice, comme une gagnante du casting de la nouvelle star. Et donc, la prédication que je vous propose ce matin, comme la semaine passée, c'est une lecture commentée du livre d'Esther, et nous allons reprendre la lecture au chapitre 2 à partir du verset 19. Donc, livre d'Esther, chapitre 2, verset 19. « La deuxième fois qu'on rassembla des jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait toujours pas révélé ni sa famille ni son origine, car Mardochée le lui avait interdit, et elle respectait ses ordres comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. À ce moment-là, Mardochée était donc assis à la porte du roi. Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée, eurent un mouvement d'irritation et cherchèrent à porter la main contre le roi Assuérus. Mardochée en fut informé et le révéla à la reine Esther, qui parla de sa part au roi. L'information fut vérifiée et confirmée, de sorte que les deux eunuques furent pendus à une potence. Tout cela fut enregistré par écrit dans les annales en présence du roi. Jusque-là, la lecture pour l'instant. Voilà que l'auteur du livre évoque pour la deuxième fois le secret d'Esther, ici au verset 20. Esther n'avait toujours pas révélé ni sa famille, ni son origine. Elle est juive. En pays perse, elle est donc comme une immigrée dans ce pays. Et pourtant, elle est reine. C'est la différence d'ailleurs avec la première mention de son secret au chapitre 2 et au verset 10. Maintenant, Esther est reine. Et plus que jamais, elle garde pour elle ce secret. Notez qu'elle continue à obéir à cet ordre de son protecteur Mardochée, garde ce secret, alors qu'elle est maintenant la reine, qu'elle pourrait dire, bon, c'est moi qui décide, je fais ce que je veux. Mais elle préserve ce secret. Mardochée est là, à la porte, à la porte du roi, comme on l'a trouvé déjà à plusieurs reprises. Et là, il a vent d'un complot qui se trame contre le roi. Deux serviteurs, deux gardes qui complotent de porter atteinte à la vie du roi. Et Mardochée fait déjouer ce complot et l'information est vérifiée, confirmée et les deux eunuques sont exécutés. Le fait est consigné dans les archives royales. Notez cet élément qui aura son importance dans la suite du récit. Donc voilà, de nouveau, en cette fin de chapitre 2, une mise en place de la suite de l'histoire. Et comme souvent dans les histoires et dans les récits, il y a un méchant emblématique. Si, comme moi, vous êtes des fans des dessins animés de Walt Disney, il y a toujours un méchant ou une méchante qui est le grand méchant ou la grande méchante de l'histoire. Eh bien, là aussi, le méchant emblématique de l'histoire fait son entrée au début du chapitre 3. Lisons la suite. Chapitre 3, versets 1 à 6. Après ces événements, donc le complot, le roi Assuérus accorda plus d'importance et de pouvoir à Aman, fils d'Amedata l'Agagite. Il lui donna une position supérieure à celle de tous les princes de son entourage. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi pliaient le genou et se prosternaient devant Aman, car cela correspondait aux ordres du roi à son sujet. Mardochée, cependant, ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas. Les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi lui dirent « Pourquoi enfreins-tu l'ordre du roi ?» Comme ils le lui répétaient chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils informèrent Aman de son attitude pour voir s'il persisterait dans sa décision. En effet, il leur avait dit qu'il était juif. Aman s'aperçut qu'effectivement Mardochée ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas devant lui, et il fut rempli de colère. Cependant, il ne jugea pas suffisant de porter la main contre Mardochée seul. En effet, on lui avait révélé à quel peuple celui-ci appartenait, et il chercha à exterminer tous les juifs installés dans tout le royaume d'Assuérus, à savoir le peuple de Mardoché. Le verset 1 dit « Après ces événements », c'est-à-dire à peu près 4 ans après l'arrivée d'Esther en tant qu'impératrice. Et voilà qu'entre en scène Aman, le méchant de l'histoire, qui est un des descendants d'Agag. Le texte dit « l'Agagite ». On trouve ce même nom dans le chapitre 15 de 1 Samuel, où le roi Saül combat contre Agag, le roi d'Amalek. Vous savez, les Amalécites, ce sont en quelque sorte les ennemis historiques d'Israël. En Exode, chapitre 17, lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, voilà que les Amalécites viennent leur faire la guerre. Et cette histoire est célèbre, peut-être vous vous en souvenez, parce que lorsque Moïse levait les bras pendant la bataille, alors Josué et l'armée d'Israël gagnaient le combat. Et puis lorsque Moïse était fatigué et que ses bras retombaient, eh bien ce sont les Amalécites qui prenaient le dessus. Et finalement, avec Aaron et une autre personne qui ont soutenu les bras de Moïse en l'air, Israël a gagné le combat. Vous pourrez relire ce récit dans Exode chapitre 17. L'auteur du livre d'Esther semble donc nous indiquer ici, à nous lecteurs, que les deux personnages, Mardoché et Aman, dans leur confrontation qui se déroule dans cette histoire, représentent respectivement Israël et Amalek. Ce qui nous permet peut-être de mieux comprendre, d'une part, pourquoi Mardoché ne salue pas publiquement Aman, s'il s'agit d'un ennemi juré. Et cela nous dit aussi peut-être pourquoi Aman désire se venger non seulement de Mardoché pour son affront, mais aussi de tous les Juifs. Vous voyez cette inimitié, cette situation d'ennemi entre Israël et Amalek. Peut-être que là, Mardoché et Aman représentent à eux deux ce conflit. Si vous avez ouvert les informations cette semaine, vous pouvez constater le drame que cela représente encore aujourd'hui en Israël, des peuples ennemis qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas se rapprocher pour se pardonner, se réconcilier. Il y a une inimitié, une haine tenace qui passe de génération en génération et on ne voit pas de solution. Et chacun voudrait que l'autre peuple disparaisse. Notez que Mardoché, contrairement à Esther, a révélé son origine juive et que Aman va chercher à profiter de cette révélation. Continuons la lecture à partir du verset 7 et jusqu'au verset 15. La 12e année du règne d'Assuérus, le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nisan, on jeta le pour, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et chaque mois successivement. Et le sort désigna le 12e mois, c'est-à-dire celui d'Adar. Aman dit alors au roi Assuérus, « Il y a dans l'ensemble des provinces de ton royaume un peuple unique, bien que dispersé, qui reste bien à part parmi les peuples. Il a des lois différentes de celles de tous les autres peuples et n'applique pas celles du roi. Le roi n'a aucun intérêt à le laisser tranquille. Si donc tu le juges bon, qu'on donne par écrit l'ordre de les faire disparaître. Voici 300 tonnes d'argent que je remettrai aux fonctionnaires pour le trésor du roi. Le roi retira l'anneau de sa main et le donna à Aman, c'est-à-dire son sceau royal. Aman, fils d'Amedata l'Agagite, qui était l'adversaire des Juifs. Et il lui dit, « L'argent et ce peuple sont à ta disposition, fais-en ce que tu voudras. » On convoqua les secrétaires du roi le 13e jour du premier mois et l'on écrivit un message en tout point conforme aux ordres d'Aman et adressé aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple, à chaque province dans son écriture et à chaque peuple dans sa langue. Tout le monde était au courant. Le message fut écrit au nom du roi Assuérus et on y apposa l'empreinte, c'est-à-dire le sceau du roi. Les lettres furent envoyées par l'intermédiaire des coursiers dans toutes les provinces du roi. Elles disaient qu'il fallait en un seul jour, le 13e du 12e mois, donc à la fin de l'année, c'est-à-dire le mois d'Adar, exterminer, massacrer et supprimer tous les juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, et procéder au pillage de leurs biens. Une copie du document devait être donnée avec force de loi à chaque province et être communiquée à tous les peuples, afin qu'ils soient prêts pour ce jour-là. Les coursiers partirent sans tarder sur ordre du roi. L'édit fut aussi proclamé à Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman s'installaient pour boire, la ville de Suse était plongée dans la consternation. Voilà que le méchant Aman prend l'affaire en main. Il insinue par son discours que les Juifs sont un peuple à part, ce qui est vrai. Comme tous les peuples occupés à cette époque, ils ont le droit d'exercer un certain nombre de leurs coutumes, mais ils sont soumis en priorité aux lois de l'Empire. Mais ils ont leurs propres lois. C'était aussi le cas des Juifs du temps de Jésus, sous l'Empire romain. Et Aman insinue que cette liberté pourrait devenir une source de révolte, de rébellion. Et donc il faut mater la rébellion avant qu'elle ait lieu. Aman va même jusqu'à payer une très forte somme d'argent pour que son plan se déroule. Et le roi, comme si de rien n'était, accepte cette proposition de la part de celui qu'il a nommé grand vizir. C'est ça la place qu'occupe Aman dans le royaume, comme le premier ministre, si vous voulez. C'est donc lui l'exécutant. Le roi lui donne son anneau, son sceau, ce qui signifie qu'Aman a tout pouvoir. C'est lui qui édicte la loi au nom du roi maintenant. Aman donc prend l'affaire en main. Au verset 7, nous lisons que le sort en est jeté. Et l'auteur ici, l'auteur du livre, anticipe quelque chose qu'il va dire plus tard à la fin du livre au chapitre 9 et qu'il appellera la fête des Pourim. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles existe ce livre d'Esther qui nous explique d'où vient dans l'histoire la fête des Pourim. Du mot pour, qui signifie à la fois en langue perse et vraisemblablement aussi en hébreu, le sort. Pour, c'est le sort. Les Pourim, c'est les sorts qu'on jette pour prendre les grandes décisions. Et je vous disais en introduction, je vous parlais des décisions importantes que l'on peut être amené à prendre dans sa vie. Voilà comment les Perses prenaient les grandes décisions politiques. Ils jetaient le sort. Et là, le sort, c'est pour décider quel est le jour et quel est le mois où on va exécuter ce sinistre complot, exterminer tous les Juifs du royaume perse. Les Perses s'en remettent aux dieux, au destin, au sort pour déterminer le jour de l'exécution des Juifs. Et notez que le sort tombe tout à la fin de l'année. Ça aurait pu tomber dans les 15 jours. L'édit aurait été proclamé, les Juifs auraient été massacrés. Mais l'auteur nous dit que le sort est tombé sur le dernier mois de l'année. Intéressant. L'exécution n'est pas décrété tout de suite. Quelqu'un qui, lui, maîtrise parfaitement le cours des événements, fait en sorte que le sort, en tout cas ce qui apparaît comme le hasard pour les hommes, indique le moment le plus tard possible dans l'année, ce qui laisse un espoir pour les Juifs. Mais pour l'instant, c'est la confusion parmi les Juifs, et notamment dans la capitale. Lisons la suite au chapitre 4, verset 1. Informé de tout ce qui se passait, Mardochée déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et de cendres, puis sillonna la ville en criant à pleine voix son amertume. Il alla ainsi jusqu'aux abords de la porte du roi, car son entrée était interdite à toute personne habillée d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait le message du roi, qui avait valeur de loi, les Juifs menaient grand deuil, avec jeûne, pleurs et lamentations. Beaucoup avaient pour lit le sac et la cendre. Lorsque ses servantes et ses eunuques vinrent lui rapporter ce qui se passait, la reine Esther en fut toute bouleversée. Elle fit parvenir des vêtements à Mardochée pour le pousser à s'habiller et à retirer son sac, mais il ne les accepta pas. Elle appela alors Attac, l'un des eunuques que le roi avait attaché à son service, et le chargea d'aller demander à Mardochée ce qu'il avait et pourquoi il se comportait de cette manière. Attac rejoignit Mardochée sur la place de la ville qui fait face à la porte du roi, et Mardochée lui raconta tout ce qui lui arrivait. Il lui précisa même la quantité d'argent qu'Aman avait promis de verser dans le trésor du roi pour pouvoir faire disparaître les Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit proclamé dans Suse en vue de leur extermination, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse un rapport, en la chargeant de se rendre chez le roi pour lui demander grâce et plaider la cause de son peuple. Le sac et la cendre sont ici des symboles, des signes de deuil, de tristesse. Et le jeûne est probablement la prière qui n'est pas mentionnée ici, mais qui accompagnait le jeûne. Les Juifs sont dans une grande détresse et ils se mettent à prier. Mardochée entre en contact avec Esther pour la mettre au courant et lui demander de plaider la cause de son peuple. Notez cette phrase. Va plaider notre cause. Ici, on pourrait dire qu'Esther est comme un type, une préfiguration, un avant-goût du rôle de médiateur que Jésus-Christ jouera dans l'histoire de l'humanité. Ici, Mardochée dit à Esther: vas-y, va voir le roi, joue le rôle de médiatrice, d'intermédiaire entre le roi et la sentence de mort qui a été proclamée contre nous. À sa manière, le livre d'Esther annonce ici, dans cette phrase de Mardochée, que quelqu'un doit intervenir dans l'histoire pour sauver son peuple. Le plan de Aman, c'est un plan de mort. Mais Dieu a un contre-plan en coulisses. Contre-plan qui est en fait le plan A de Dieu, sa volonté, qui est le salut des Juifs, sauver son peuple. Et en lisant ce texte, je pense à certaines paroles de Jésus, lorsqu'il dit par exemple: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut sauver son peuple. Ou encore Jésus qui dit: je suis, moi, le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis, médiateur entre Dieu et les hommes. L'apôtre Jean dit aussi: si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur, un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, c'est-à-dire il est mort à notre place pour que nous puissions vivre et non pas mourir. Aman a son plan de mort pour détruire, Dieu a son plan de salut pour sauver son peuple. Et Esther est là, au milieu. Elle est reine. Que va-t-elle faire ? Nous pouvons dire, nous qui pouvons lire ce livre d'Esther plusieurs milliers d'années après qu'il ait été écrit, nous pouvons dire que Jésus a accompli parfaitement ce qu'Esther, en son temps, a tenté d'une manière provisoire, sauver son peuple. Jésus-Christ accomplit cette œuvre non seulement pour les Juifs, mais pour tout homme, toute femme qui place sa confiance en lui. C'est ce que dit Jean 3,16. Quiconque croit en lui ne périt pas. Lisons la fin du chapitre 4 et nous arrêterons la lecture du livre à la fin de ce chapitre. Esther, chapitre 4, à partir du verset 9. Hatak, donc l'eunuque envoyé par Esther, vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Celle-ci le chargea alors d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoquée, n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. On rapporta donc à Mardochée les paroles d'Esther, et Mardochée lui fit répondre: « Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence, maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait ? Qui sait ? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther fit répondre à Mardochée: « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je respecterai un tel jeûne avec mes servantes, et c'est dans ces dispositions que j'irai voir le roi. J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. » Mardochée s'en alla faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. On est là dans un moment très fort dans le récit. Quel échange entre Esther et Mardochée par serviteur interposé. « Va plaider notre cause auprès du roi, » dit Mardochée. « J'aimerais bien, » dit Esther, « mais il y a un problème. On ne se présente pas devant le roi sans y avoir été invité. Le faire, c'est transgresser la loi immuable des Mèdes et des Perses, et donc encourir la peine de mort. D'autant qu'avec un tel roi, nous l'avions vu au chapitre 1, capricieux, colérique et qui prend des décisions au gré de ses humeurs, nous avons en tant que lecteurs de quoi nous inquiéter. Mais Mardochée trouve les mots justes pour encourager Esther. Au verset 14, il lui dit: « Tu sais, toute reine que tu es, tu n'es pas à l'abri. Tu es juive, toi aussi. Toi aussi, tu vas mourir. » Et puis surtout la fin du verset 14, qui est peut-être la phrase clé du livre. Vous pouvez souligner ce verset dans votre Bible. La fin du verset 14, où Mardochée dit: « Qui sait ? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. » Qui sait ? Dieu sait. Dieu est à l'œuvre. Dieu avait déjà prévu que les événements tourneraient ainsi. Et Dieu n'abandonne pas son peuple. Nous qui sommes là ce matin, nous n'avons peut-être pas un rôle politique à jouer comme celui d'Esther. Mais le message que nous délivre l'auteur biblique est aussi pour nous. À ceux qui sont chrétiens, Dieu dit par cette parole du livre d'Esther, « Je vous ai confié une mission, un service, un don, appelez ça comme vous voulez. Vous avez chacun, chacune, un rôle à jouer dans ce monde. Tu as un rôle à jouer dans mon œuvre de salut pour ce monde. Et ce que je te demande, c'est de jouer ton rôle, ni plus, ni moins. Tu n'es ni la vedette du film, c'est Jésus-Christ qui a le rôle principal, ni une pièce du décor. Tu as un vrai rôle à jouer. Tiens ta place. Joue ton rôle. Suis-moi. Voyez, ce texte qui a 2500 ans probablement sonne comme un écho à l'appel de Jésus à ses disciples. Suis-moi. Suis-moi. Nous ne maîtrisons pas le cours des événements, ni de l'histoire, ni de notre propre histoire. Et ce n'est pas ce que Dieu nous demande, de maîtriser le cours des événements. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ce qui nous est demandé, et ce matin, Dieu renouvelle cet appel au travers du livre d'Esther, et cet appel est pour chacun de nous. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être courageux, d'être à la place que le Seigneur nous confie et de participer activement à son œuvre de grâce, de salut. Regardons encore quelques instants l'attitude d'Esther au verset 16. Quel exemple pour nous ! Je relis le verset. « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. » Ah, j'ai loupé une phrase, excusez-moi, je reprends la lecture. « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je respecterai un tel jeûne avec mes servantes. Et c'est dans ces dispositions que j'irai chez le roi. J'enfreindrai la loi et si je dois mourir, je mourrai. » Je retiens 3 choses dans l'attitude d'Esther. 3 encouragements pour nous aujourd'hui. Esther fait rassembler tous les Juifs qui sont à Suse, dans la capitale. En lisant ça, j'ai pensé à ce dicton qui dit « L'union fait la force ». L'union fait la force. Et je me suis dit, mais nous aussi en tant que chrétiens, en tant qu'église, nous ne sommes pas seuls pour affronter les difficultés. Le diable essaye de diviser, de disperser. Aman a son plan pour détruire les Juifs. Les Juifs sont dispersés dans l'Empire perse. Esther les rassemble. Premier point donc, nous ne sommes pas seuls pour affronter les difficultés de la vie chrétienne. Deuxième point, Esther jeûne et donc prie avec les autres, avec son peuple. Chacun, quelle que soit sa position dans la société, quelle que soit sa situation, s'en remet avec les autres à Dieu. Le jeûne ici, c'est l'occasion de dire à Dieu, voilà, nous sommes dans le dénuement, nous sommes dans l'impasse. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Esther encourage son peuple à s'en remettre à Dieu. Troisième chose, Esther dit qu'elle ira chez le roi, quoi qu'il lui en coûte. Elle est pour nous ici un exemple qui nous invite à faire ce à quoi nous sommes appelés et à aller jusqu'au bout. À prendre courage face aux épreuves, même face à la mort. nous ne sommes pas seuls. Remettons-nous à Dieu et faisons ce à quoi Dieu nous appelle en allant jusqu'au bout. Persévérons, prenons courage dans le Seigneur. Que l'exemple d'Esther et la confiance que nous pouvons trouver dans la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire le fait que Dieu, lui, maîtrise parfaitement les événements, même si nous, parfois, nous avons l'impression que les choses nous échappent. Que cela soit un encouragement pour nous aider à voir notre quotidien différemment. Dieu vous a donné un travail, eh bien c'est quelque chose qu'il vous a confié pour le servir. C'est pas rigolo tous les jours. Il faut se lever. Il faut travailler. Prenons notre travail comme un service que Dieu nous confie. Dieu nous a placés là dans ce travail et ce n'est certainement pas pour rien. Dieu nous a peut-être donné un ministère, un service particulier pour son Église. Et Dieu nous dit ce matin, courage, continue la route. Dieu nous donne peut-être d'éduquer des enfants. Et là aussi, c'est pas facile tous les jours. Eh bien, Dieu nous donne ce rôle pour les former pour la vie chrétienne. Ce qui peut nous aider à prendre courage dans les moments difficiles. Dieu nous a donné enfin la prière comme un moyen de l'interpeller, lui, le Dieu sauveur. Nous ne savons pas forcément comment régler les situations, mais Dieu, lui, sait toutes choses. Prions Dieu qui lui sauve son peuple. Et nous pourrions multiplier encore les exemples. Mais voilà comment la vie d'Esther peut nous aider dans notre vie quotidienne de cette semaine à voir les choses un peu différemment. Ne nous laissons pas abattre par le découragement, par les difficultés. Regardons à Dieu. Et à l'exemple d'Esther, un exemple de courage. Je vous invite à prier.
Amen.
Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ta parole. Te bénissons parce que ta parole est la vie, ta parole nous restaure, ta parole nous encourage. Seigneur, là où tu nous as placés, dans notre famille, dans notre travail, dans notre vie sociale, dans notre quartier. Encourage-nous ce matin, par l'exemple d'Esther, à aller de l'avant, à ne pas craindre les difficultés, à ne pas craindre la souffrance, à ne pas craindre la mort, à ne pas craindre tout ce qui inquiète le monde aujourd'hui. Aide-nous à placer entièrement notre confiance en toi et à trouver en toi le salut, le repos, la force nécessaire pour marcher jour après jour de cette semaine avec toi. Nous t'en prions dans le beau nom de Jésus. Amen.